Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagnan et voici vos manchettes en ce mercredi 18 novembre. Campagne de panier de Noël de la Fondation des aveugles du Québec, lancement du programme Music and Memory MD au Québec, école pour enfants handicapés, l'absence de services de garde déplorée. En France, l'obligation d'embauche des travailleurs ayant des incapacités devient moins contraignante et dépôt de candidature pour les prix Jeannine Suto, c'est maintenant. Comme chaque année, la Fondation des aveugles du Québec amasse des dons de jouets, vêtements et denrées non périssables afin de remettre des paniers de Noël pour les personnes aveugles et malvoyantes. La grande majorité des personnes ayant une déficience visuelle vit sous le seuil de la pauvreté. Or, quoi de plus réjouissant que de passer la période des fêtes avec une table bien remplie et des cadeaux sous le sapin? Les personnes désirant recevoir des paniers de Noël ont jusqu'au 10 décembre 2015 pour remplir le formulaire disponible sur le site Internet de la Fondation des aveugles du Québec. La Fondation des aveugles a établi cette tradition de panier de Noël en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis Braille, Vusivoix, et le Regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM. Pour déposer des dons, vous pouvez visiter les différents points de collecte. Au bureau de la Fondation des aveugles du Québec, situé au 5112 rue de Bellechasse à Montréal jusqu'au 18 décembre, dans les bureaux de Vusivoix, situé au 1055 boulevard René-Lévesque-Est, bureau 501 jusqu'au 16 décembre, les membres bénévoles et employés du RAM peuvent déposer leurs denrées à l'entrée de la salle Berthe-Réaume jusqu'au 16 décembre 2015. Et finalement, les employés de l'Institut Nazareth et Louis Braille peuvent quant à eux remettre leurs dons au bureau d'Annie Ullmann jusqu'au 9 décembre. Grâce au généreux soutien financier de Fasken Martineau, la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, le FQSA, a souligné hier le lancement officiel au sein de plusieurs sociétés Alzheimer du Québec certifiées du programme Music and Memory MD, qui fait appel à la magie de la musique pour améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le programme de musicothérapie Music and Memory MD permet, grâce à des listes de pièces musicales personnalisées, de recréer les souvenirs des personnes atteintes de troubles cognitifs et de la maladie d'Alzheimer. Les études démontrent que la musique est un puissant stimulant pour le cerveau et qu'elle représente un moyen d'intervention de choix dans le traitement des personnes atteintes. Elle diminue notamment l'agitation et l'angoisse et permet de retrouver le calme. Les intervenants certifiés qui ont reçu la formation nécessaire à travers les diverses sociétés Alzheimer du Québec seront en mesure de programmer des iPods en y répertoriant des pièces musicales personnalisées qui ont une signification particulière pour les personnes atteintes, a expliqué José-Lisa Lefrançois, directrice générale par intérim de la FQSA. Pour Lise Lalande, directrice générale de la Société Alzheimer Laval, première société à avoir obtenu la certification, il ne fait aucun doute que le programme musical a des répercussions plus que positives chez les personnes atteintes. Les résultats observés auprès des personnes atteintes qui écoutent les pièces musicales significatives pour elles sont renversants. La musique fait des miracles sur la mémoire et la qualité de vie. C'est une approche qui est simple et efficace et qui facilite l'interaction avec les personnes atteintes, a précisé Mme Lalande. L'approche a été créée par Dan Cohen, directeur de l'organisme sans but lucratif Music and Memory MD, et présentée dans le cadre du documentaire Alive Inside, A Story of Music and Memory, et dont l'extrait de Henri, une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, a été visionné plus de 11 millions de fois sur YouTube. Le passage de Henri a soulevé un grand enthousiasme pour le programme, qui est déjà implanté dans plusieurs pays du monde. Des parents réclament que leur enfant handicapé ait accès à un service de garde directement dans leur école spécialisée, comme c'est le cas pour les écoles primaires régulières à Montréal. Pour Annick Boissonneau, qui a une fille de 6 ans en première année à l'école spécialisée pour enfants sourds Gadebois, chaque journée pédagogique représente un stress. L'école Gadebois n'offre pas de service de garde et sa fille doit fréquenter celui de l'école de quartier proche de chez elle, une école régulière. Mais les journées pédagogiques de l'école de quartier ne sont pas en même temps que celles de l'école Gadebois. Par conséquent, la fille de Mme Boissonneau, Marie-Lou, n'a pas accès aux services de garde lorsqu'elle n'a pas d'école. Parfois, mon conjoint et moi nous absentons du travail. Sinon, il faut trouver un proche ou une personne spécialisée. Il y a 20 journées pédagogiques dans une année. À chaque fois, c'est un casse-tête pour faire garder son enfant, explique Annick Boissonneau, qui préside le comité parents de l'école Gadebois. Alain Perron, porte-parole de la Commission scolaire de Montréal, la CSDM, admet qu'il faudrait des journées pédagogiques uniformes entre les écoles. La CSDM indique que 2 écoles primaires spécialisées pour enfants handicapés ont actuellement un service de garde, alors que les 4 autres n'en possèdent pas. À savoir pourquoi, le porte-parole répond que c'est simplement parce que les parents n'en ont pas fait la demande. La loi sur l'instruction publique précise que ce sont les conseils d'établissement qui doivent en faire la demande. Annick Boissonneau affirme que les parents ont demandé à quelques reprises au directeur de l'école Gadebois de mettre sur pied un service de garde. Il aurait répondu que ce n'est pas possible en invoquant un manque de ressources. Le directeur n'a pas retourné les appels de Anne-Marie Provost, journaliste au Journal de Montréal. Depuis 1987, la loi française impose aux entreprises de plus de 20 salariés de compter au moins 6 % de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. Les sanctions financières ont été durcies par la loi handicap de 2005. La loi Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances ouvre discrètement de nouvelles possibilités pour les entreprises de s'acquitter de leurs obligations. Des mesures saluées par les entreprises, mais qui sont loin de faire l'unanimité parmi les associations de personnes handicapées. Désormais, les entreprises pourront remplir en partie leurs obligations d'emploi en accueillant des personnes handicapées dans le cadre de stages de mise en situation professionnelle, un dispositif d'une durée de 1 à 2 mois introduit en 2014 par la loi sur la formation professionnelle. Jusqu'à 2 % de leur quota pourront être atteints par ce biais. Les stages d'observation accomplis par des collégiens et des lycéens handicapés pourront également être comptabilisés, là aussi à hauteur de 2 %. Autre nouveauté introduite par la loi Macron, les entreprises pourront déduire de leur obligation d'emploi des contrats passés avec des travailleurs indépendants handicapés. Les modalités de mise en œuvre de ces dispositions ne sont pas encore connues. Les décrets d'application sont attendus courant novembre. L'introduction de ces nouvelles dispositions ne serait-elle qu'un simple alignement de la loi sur l'existant? Pas aux yeux de Véronique Bustril, conseillère nationale à l'emploi à l'Association des paralysés de France. Il s'agit de facilités supplémentaires accordées aux entreprises sans que cela ne se traduise pour les personnes en situation de handicap par une amélioration de leur place dans le monde du travail, dénonce-t-elle. Des stages de courte durée mis bout à bout permettent aux entreprises de remplir partiellement leurs obligations sans équivaloir à des emplois directs. Du côté de l'Association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, sa présidente, Anne Balthazar, se montre d'un avis moins tranché sur l'ensemble des mesures. Ces dispositions ne concourent pas à l'emploi pérenne de salariés dans les entreprises, confirme-t-elle. Mais on peut aussi espérer un effet positif sur la création d'activités par les entrepreneurs indépendants handicapés, ainsi que sur l'insertion de jeunes handicapés en entreprise. Si vous connaissez une personne vivant avec une déficience intellectuelle qui possède un talent artistique ou si vous avez entendu parler d'un projet artistique inclusif, soumettez une candidature pour les prix Jeannine Suteau. Des prix et des bourses seront offerts aux lauréats. Vous trouverez les informations et le formulaire de mise en candidature sur le site de l'Association de Montréal pour la déficience intellectuelle. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin ainsi que des liens vers les nouvelles ou organismes mentionnés sont disponibles au vuesetvoix.com. Aussi, si vous êtes un organisme, vous pouvez nous envoyer vos nouvelles au canalm@vuesetvoix.com. Bonne journée tout le monde.